une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Goethe Maurie Binander, Lévi Horlep, la fonte de Judaïka. C'est presque l'anniversaire de ma chronique. J'ai mon 90e invité dans notre studio. Rendez-vous compte, comme le temps file, comme le temps passe. Mais toujours le même plaisir d'être derrière le micro, de surfer sur les ondes, d'accueillir de belles personnes que je mets dans la lumière et surtout dans votre cœur. C'est pas joli ça ? Alors, de ce bon matin de février, je vais vous présenter un coach, une balle jaune, une raquette, un court de tennis, un sport de balle. Nous allons parler de tennis, ma passion évidemment. Et mon invité surprise est un champion de tennis, un pro qui a vécu plusieurs vies sportives. Sa passion, son métier l'a emmené à l'autre bout du monde. Salut cher invité surprise Bertrand Lescure. Comment tu gazouilles dans ton monde sportif ?
Enfin moi, impeccable, hein, la pêche, tous les matins je me lève, je fais ma petite méditation du réveil et puis j'attaque la journée en pleine forme.
Ouais mais t'as une voix quoi, t'as une présence ouais, là
ouais,
au
ouais.
micro. Hein.
Ouais j'aime bien.
Faites attention les garçons, ça pulse hein, derrière les micros là. Alors comment tu gazouilles dans ce monde sportif ? Dis-moi un petit peu, comment c'est ? Là tu me dis que tu te réveilles, tu fais de la méditation parce que t'as besoin de méditer le matin.
Ouais j'ai besoin un petit peu de me mettre dans un état de conscience parce que j'entraîne des joueurs dès le matin et j'ai besoin d'être en pleine forme pour écouter les...
T'es ouais. tous les jours sur un court de tennis, sur du green set ou t'as
ouais,
terre battue
et, voilà, et, très, ouais. très souvent et même sur de la moquette, c'est très rare mais je suis en Alsace sur la moquette et puis tous les jours...
C'est un privilège de jouer sur la moquette, c'est comme à l'Elysée, ils sont sur la moquette.
Ouais, c'est super confortable, en plus la salle est super bien isolée donc je passe du ouais, bon ouais. temps. Et...
Alors aujourd'hui tu es venu coloriser, t'es en habit de travail, tu es en jogging et surtout t'as emmené ton outil de travail qui est une ouais. raquette... Une jolie raquette, bien cordée en verre. C'est, si je ne me trompe pas, c'est du Babola, ça,
ouais,
non ?
Oui, c'est du Babola. Ouais. Et en plus, je joue avec une marque. Alors, moi, je suis fan de Djokovic, mais je joue avec Babola parce que notre club est en sponsor avec Babola.
Ah oui, ben moi, je joue aussi avec une Babola, mais elle est bleue, la mienne, avec un cordage orange.
Ah ouais,
parce
okay.
que orange, c'est un peu ma couleur préférée. Alors, okay. tu es sportif, tu enseignes pas que la technique. Hein.
Voilà, exactement. Mmh. Bah, depuis plus de 15 ans maintenant, je me suis formé avec les plus grands mentors français et étrangers. Et mon but, c'est d'aider les joueurs à mieux gérer leurs émotions afin d'exposer leurs performances. Et aujourd'hui, le mental, c'est une partie qui est occultée en France.
C'est reconnu, ça, en France, le mental
bah, qu'on est pas trop, justement. On est au tout début. Et aujourd'hui, si on veut faire des champions, c'est le match de tennis, c'est un match d'émotions. Donc l'idée, c'est vraiment de se comprendre par rapport à la connaissance de soi. Et vraiment, moi, mon idée, c'est d'aller au plus profond pour prendre les bonnes décisions.
On en reparlera un peu plus tard, ouais. mais c'est ce qui fait peut-être un peu la différence entre les grands champions du monde qui ont effectivement des coachs comme toi qui est sur le mental. Et chez nous, les Français, je sais pas, ça traîne un peu hein, sur les cours de tennis.
Les Français, on est très techniques. On fait des beaux joueurs de tennis. Bon, on a quand même beaucoup de joueurs dans les 100 premiers. Maintenant, si on veut sortir des champions, le match de tennis, c'est un match pour moi mental. Et c'est lui qui gère le mieux cette partie-là.
Faudrait que tu ailles à la Fédé, leur dire un peu ton truc, là, parce que là, franchement, il y a quand même du boulot. Hein,
ouais, mais il y en a qui essayent de faire leur chemin, là, et qui essayent d'apporter cette pierre. Donc,
Oui, on en parlera un peu plus loin, mais avant d'évoquer cette petite balle jaune qui nous rend un peu dingo de temps en temps, tu es Vosgien, je crois.
Je suis Vosgien.
On est voisins ?
Ouais, on est voisins. Moi, je suis arrivé, j'ai vécu 5 ans avant de partir, de m'exiler dans le sud de la France.
Mais parle-moi un petit peu des Vosges, c'est comment ? Postale, c'est comment là-bas ?
Alors moi, pour moi, les Vosges, c'est Gérard May. Je suis né à Saint-Dié, mais bon, j'adore. J'ai passé toute mon enfance, ma petite enfance et même après mon adolescence à Gérard May, autour du lac.
C'est beau, les jonquilles là-bas, je me souviens.
Les sapins. Moi, ça me... Voilà, je suis content d'être venu là et tous les mois, je vais passer un petit peu de temps là-bas.
Un peu de temps. Alors, l'école là-bas, ça s'est passé comment ? Tu étais plutôt un rêveur ou tu étais plutôt le sport, les raquettes de tennis avant de faire des calculs calcul mental.
Alors c'est tout à fait ça. Moi j'allais très rapidement avec mes raquettes en cours. Je savais déjà, j'avais déjà identifié ce que je voulais faire plus tard et je me baladais très rapidement avec mes raquettes et rien ne pouvait m'empêcher d'aller jouer très rapidement au tennis, voilà.
Et ensuite, des Vosges, t'es parti en fait dans la Drôme, t'es parti dans le pays du Nougat.
C'est ça, je suis parti à Montélimar et c'est là où j'ai commencé le tennis. Et j'ai commencé avec ma maman à l'âge de 11 ans. Et à partir de là, je faisais foot tennis et j'ai décidé de bifurquer vers le tennis où j'ai commencé à faire mes premiers tournois. Et là, c'était pour moi le...
Et est-ce que ce Nougat t'a aidé à devenir un champion de tennis? Est-ce que ce miel ou cette amande qui est dans le Nougat?
Alors, je ne sais pas s'il m'a aidé. Il m'a aidé à prendre des kilos surtout parce que je
mange toujours. Ça se voit pas. Hein, ça se voit pas.
Donc, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai passé 10 ans à Montélimar où je me suis vraiment éclaté. Je me suis révélé en tant que sportif. Et puis, voilà, c'était...
Et après, tu es parti dans une ville un peu plus terne, non? Salon de Provence?
Voilà, Salon de Provence, où là, j'ai commencé vraiment à jouer de plus en plus et à passer mon diplôme d'État également. Et j'ai fait mon service militaire là-bas. Donc, j'ai passé aussi 10 belles années où je jouais au foot et je jouais au tennis.
Le foot, tu n'avais pas envie de devenir champion de foot?
Foot, j'étais pas mauvais au foot, mais le tennis, c'était... Voilà, j'avais envie de partir là-dedans parce que je commençais à sentir que j'avais des prédispositions et puis j'ai fait plein de tournois.
Du talent, tu veux dire? Tu commençais à...
Je sentais que j'avais quelque chose et très rapidement, j'ai atteint un classement correct. Et puis après, c'est parti, je suis parti.
Pourtant, c'est pas simple de jouer au tennis quand tu n'y connais pas grand-chose, quand tu découvres le tennis. Bon, t'es passé par le foot d'abord, t'as déjà un jeu de balle.
Ouais.
Et de pouvoir servir correctement, d'envoyer la balle, de la centrer, tout ça, c'est quand même compliqué au début.
Alors, j'ai passé du temps au mur. Et ça, c'est quelque chose qui a pas mal disparu. Pourtant, on peut progresser assez rapidement en jouant contre le mur. Et puis, je passais ma journée et mon week-end sur les terrains, chose qu'aujourd'hui, je vois de moins en moins de jeunes passer leur temps au tennis. On est plus dans un monde de consommateurs. Et moi, j'ai progressé hyper vite. Et là, j'ai pris mon envol. Et là, j'ai été repéré un petit peu dans mon club, dans ma ligue. Et puis, je suis parti faire des tournois à l'autre bout de la France.
D'accord. Alors, tu as fait des compétitions, bien sûr, des tournois, tu en parles à l'instant. Pour l'instant, tu étais resté en France. Tu faisais des tournois d'une grande ville à une autre grande ville.
C'est ça.
Et c'est comme ça que tu as gravi les pyramides du classement.
Voilà, c'est ça. J'ai commencé à... Voilà, je bourlinguais. À 15 ans, je prenais le train. Je faisais 9 heures de train.
Waouh.
Et j'étais super content de me retrouver dans des familles d'accueil, etc., qui m'accueillaient superbement.
C'était une belle vie.
Ouais, c'était une super belle vie. Je me suis éclaté.
Ok. Bah, écoute, tu m'as demandé, tu aimes bien Vianney, je crois. Tu m'as dit que tu aimais bien ce garçon. On va écouter un petit bout de musique.
Ouais, il n'y a pas de problème.
Ça s'appelle Pala. Comme toi, t'étais pas toujours là non plus.
Voilà, attends, j'étais pas... Ouais, ok.
Et mon coup, tu l'as tordu. Sans moi, non, je ne t'en veux pas. Si va la vie, enfin.
Alors, parle-moi, Bertrand, un petit peu de ton métier de tennisman. Est-ce qu'on peut vivre décemment de ce métier quand tu étais sur les tournois, quand tu es parti en prêt à l'autre bout du monde? Raconte-moi un peu cette vie. Tu es parti loin, tu es parti à l'autre bout du monde, à 24 heures d'avion. Parle-moi un peu de l'Australie. C'était comment?
Alors, l'Australie, moi, c'est mon meilleur souvenir. J'en rêve encore, j'ai envie d'y retourner. Je suis parti faire une école d'anglais pendant 9 mois, donc à Sydney. Et j'ai découvert une
autre culture. Parce que c'est la langue de travail, l'anglais. Pour les tennisman.
Ouais, alors moi qui étais dans le coaching, j'avais des joueurs anglophones qui me demandaient de les coacher, mais je parlais pas vraiment bien anglais. Donc
le Vosgien, ça marche pas là-bas.
Non, le Vosgien, c'est dur.
Ni l'Alsacien, en fait.
Exactement. Ouais. Donc, j'ai passé un super 9 mois. J'ai pu faire l'Australian Open. J'étais invité par des joueurs pros et tout. Donc, et puis, une culture différente.
C'est vraiment le pays du sport, hein, l'Australie.
C'est le pays du sport.
Tu as dans toutes les baies, tu as des piscines ouvertes en pleine mer avec des filets pour les requins. Là. Voilà. Je me souviens de ça.
Piscine, plage, ça court de partout.
Et puis, ça grouille. Et puis, à 16h, ils vont tous surfer.
Voilà.
Les blondinets, là, et les belles blondes.
C'est
et
sûr.
Puis, C'est magnifique. Beach volley sur les plages.
C'était
et tout.
Incroyable.
Ah ouais, tu en prends plein les mirettes, là.
On prend le tram à 2h du matin, ça discute, c'est jovial, c'est un autre monde.
Et puis raconte un peu le jeudi soir, comment ça se passe quand les gens sortent. Ah bah, ils vont tous manger ensemble, boire
ça.
Ensemble.
Voilà, ça se retrouve dans les pubs et tout. C'est une atmosphère vraiment, vraiment cool.
Ouais.
Et tout le monde se retrouve et c'est du jeudi au dimanche. C'est
alors il y a quand même une particularité parce que là-bas, en fait, l'alcool, tu l'achètes dans une épicerie à côté et ils te le mettent dans un carton pour ne pas voir, pour que personne ne voit que tu bois de l'alcool. C'est, c'est curieux quand même.
Hein. C'est assez spécial. Alors moi, qui suis pas fan de l'alcool, bon, j'ai partagé un petit peu des moments, mais on retrouve ces multiculturels et ça fait du bien de se retrouver dans un autre monde. Vraiment agréable.
Alors, parle-moi un petit peu, tu me parles de ces... Qui c'est que tu entraînais comme ça à l'autre bout du monde ? C'était pas la technique, mais c'était déjà le mental.
Alors,
tu t'occupais du mental à ce moment-là. Comment les joueurs gèrent ce stress, gèrent ces émotions quand tu perds 6-0 ? Comment tu gères ça ? Raconte-moi un peu comment tu fais.
Ouais, alors c'est ce qui est important de comprendre, c'est que tout le monde veut gagner sur un match de tennis et que les joueurs ont un objectif indépendamment du résultat et ça, c'est vraiment important parce que le match de tennis, encore une fois, c'est un match d'émotion. Et on peut perdre 6-0, c'est qu'un set. Et l'idée, c'est d'y arriver à retrouver, à chercher des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut être capable d'être calme. Et pour être calme, il faut être capable de se recentrer sur sa respiration pour être lucide et pour prendre les bonnes décisions. Et tout le travail est là, en fait.
Toi, tu savais faire ça quand tu étais joueur ? Tu savais gérer tes émotions, toi ?
Et non, justement, moi, j'étais pris par mes émotions. C'est pour ça que j'ai atteint mon meilleur niveau zéro en France.
Ah, tu dis zéro ? Waouh !
Ouais, j'étais pendant 12 ans classé zéro.
C'est deuxième série, ça, ou première série ?
C'est juste avant les classements négatifs.
Ouais.
Et du coup, tout le monde me disait, ouais, mais t'as le potentiel pour aller plus haut. Mais il y avait un paramètre que je gérais pas trop, c'était ces émotions. J'étais beaucoup dans l'euphorie quand je gagnais et quand je perdais sur un premier tour.
Ce qui est normal, non ?
Je faisais le yo-yo et du coup, ça prenait beaucoup de place chez moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à me former, à comprendre comment on pouvait gérer un peu plus ça, j'ai réussi 2 années plus tard à faire ma meilleure saison. J'ai repris 3 classements à ce niveau-là et j'ai pu surtout aider les joueurs
à mieux comprendre,
à mieux se comprendre et à performer.
Pourquoi les meilleurs du monde comme Federer, comme Djoko, eux, ils ont quelqu'un qui s'occupe du mental, tu penses ?
Ouais, Djokovic, lui, ça fait depuis l'âge de 7 ans qu'il travaille sur tout ce qui est visualisation, méditation, etc. Là, il n'y a pas mieux. Et que ça soit Nadal, Federer, quand il était plus jeune, il cassait des raquettes, etc. Il a fait un gros travail là-dessus et c'est ce qui lui a permis d'atteindre le niveau qu'on connaît.
Je me souviens d'un jour de Lendl à Roland Garros, on avait l'occasion de le filmer un petit peu. En fait, il y avait un coach, certainement comme toi, mental, qui mettait un stylo bic comme ça devant ses yeux et il devait le suivre avec le regard, avec le truc visuel. C'était incroyable, Et tu vois, c'était pour le champ visuel, sans doute.
Ouais.
Et il travaillait le champ visuel comme ça. Je trouvais ça.
Ouais.
J'ai dit, mais ça sert à quoi ? J'ai pas compris.
Ça, ça se travaille énormément aujourd'hui parce que le tennis, c'est un sport d'œil et il faut être vraiment alerte. Et l'œil, c'est vraiment la première qualité d'un joueur de tennis. À l'époque, on avait Agassi qui avait un œil incroyable.
Une bonne vision, tu veux dire ?
Ouais, une bonne vision. Et ça aide. Ça aide pour lire les trajectoires, pour avoir un temps d'avance sur l'autre. C'est vraiment essentiel dans le tennis.
Mais savoir aussi les placements, le temps d'avance sur les autres, c'est aussi d'être bien placé.
Complètement.
Et d'être bien dans la
c'est
balle.
C'est de la réactivité, tout ça se travaille. Mais en fait, y en a qui ont déjà cette qualité au départ. Qui est prédominante et c'est vraiment un point fort.
Alors j'ai aussi un petit truc à te demander par rapport aux Français. Tu penses que les meilleurs Français, on est toujours dans les il y a quelqu'un qui est 10e mondial, je crois en ce moment.
Peut-être on a mon fils, on est
mon
là.
Mon fils, il a un tournoi à Melbourne, il a fait du spectacle.
Ouais, c'est super.
C'était
à 38
beau ce qu'il
ans,
a,
c'est
monstrueux beau ce qu'il a fait cet homme. Et c'est ça aussi le tennis. C'est comme Noah à l'époque, il faisait du spectacle. Tu vois, il se prenait pas trop au sérieux. Ils avaient aussi envie d'amuser un peu les gens. C'est aussi ça le tennis de s'amuser.
Il faut trouver l'équilibre.
Mais voilà, de trouver un équilibre. Tu as raison. Mais en fait, mon fils, il n'a plus rien à perdre.
Il n'a plus rien à perdre. Maintenant, c'est beau ce qu'il fait. On est la nation qui a le plus de joueurs dans le top 100, dans les 100 premiers. Maintenant, pour être un vainqueur de Grand Chelem, ça c'est encore autre chose.
Bon, là, pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on n'y arrive pas, nous les Français ? On n'est pas plus bêtes que les autres, quand
non,
même.
Non, c'est sûr. Bon, alors, c'est vrai que là, il y avait quand même trois monstres. Federer, Nadal, Djokovic, c'était trois monstres. Malgré ces trois monstres, il y a des joueurs des Pays de l'Est qui ont réussi à sortir un Grand Chelem. Maintenant, nous, encore une fois, je pense qu'on est vraiment tellement axé sur la technique qu'on en oublie des fois de faire ce côté un petit peu guerrier. Et les Français, des fois, on est un peu,
on est
un peu dans un cocon, on est un peu couvé, et ça fait du bien d'envoyer.
Sevrés, je suis d'accord, biberonné, quoi. Ça c'est vrai. Ouais. Bah écoute, on va un tout petit peu, on parle beaucoup, on va se reposer un petit peu les oreilles, on va écouter une petite musique que tu vas affectionner également. Mais nous voir un petit peu du Noah, mon cher...
Asiko, mouvement partout et mouvement droite, mouvement à gauche, roulement de Pecos, direction à l'hôpital, docteur, c'est mauvais, attention, action.
Saga Africa, ambiance de la brousse, Saga Africa, attention les secousses.
Ça nous rappelle des bons souvenirs, hein, Gerland. Hein.
Incroyable. C'était 91.
Je crois qu'il n'y a pas mieux. Hein. Noah me disait en conférence de presse, il n'y a pas mieux. Ce qu'on a vécu là, c'est les plus beaux moments du tennis. Même ce qu'il a gagné à Roland-Garros, il disait qu'à l'époque, que c'était exceptionnel ce qu'ils ont fait, quoi, les gagner contre les Ricains. Quoi.
J'en ai encore la chair de poule.
Ouais,
c'est un
aussi,
moment
aussi.
Incroyable contre les États-Unis. En plus, à l'époque, c'était Sampras, Agassi.
C'était des monstres là-bas de l'autre côté.
Hein. Ouais, c'était Lecomte dans un état.
Exactement. Ouais, parce qu'il était, c'est le public qui les portait aussi.
Ouais,
hein.
Ouais.
C'est ça la Coupe Davis aussi. Hein.
Ouais.
C'est les ambiances.
C'est le partage, c'est tout ce qui gravite autour, l'atmosphère.
Ouais. Et puis, ils étaient bien préparés à Lyon avec le coach, là, via un entraîneur, je me souviens plus de son nom, qui les entraînait, le côté physique, je me souviens bien de lui.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était une ambiance, et quand ils étaient après dans les vestiaires, ils avaient ce trophée et ils mettaient des magnums de champagne.
Ah ouais, voilà,
et c'était la folie avec Noah, c'était extraordinaire.
Ouais. Ils étaient dans le flow, ce qu'on appelle la zone, en fait, rien ne pouvait leur arriver ce jour-là, en fait.
Ouais, c'est vrai, c'était de la gagne, quoi, tu vois. Noah, c'est un homme très élégant, je trouve, c'était quelqu'un qui était extraordinaire.
Ouais, il transmettait quelque chose que...
Et depuis, personne n'a gagné un Grand Chelem, un Roland-Garros, personne n'a gagné, aucun Français n'est arrivé là.
Non. Alors,
40 ans après, on n'a toujours pas trouvé un génie de la balle qui, en France...
Ça risque de prendre un petit peu de temps. Là, on a deux jeunes là, qui arrivent, là, Arthur Fils et Mpetshi Pericard, qui a un gros service, mais à mon avis, pour l'instant, il manque quelque chose. Maintenant, on va voir, là, il y a deux ogres qui arrivent, maintenant, Sinner et Alcaraz, donc on va voir ce que ça va donner.
Ouais, ça va aussi des gens qui vont être toujours devant le tableau.
Ça risque ça.
Après, on avait un Alsacien, un bon joueur de double, hein, Herbert, là, que tu as...
alors incroyable.
Qui était superbe, ce mec.
Ouais.
C'est dommage qu'en simple, il n'est pas...
pareil, hein, en Coupe Davis, il y a quelques années, c'est son plus gros regret, il est passé à travers, parce que, il y avait une pression à gérer, il a eu du mal, ça a joué beaucoup sur sa carrière. Maintenant, ça reste un joueur... en double, qui est incroyable. Et encore là, je l'ai vu récemment jouer en simple, ça joue encore son top 100 tranquille. Et en double, par contre, c'est d'une justesse.
Ouais, c'est bien. Et je me souviens qu'une interview de Djoko qui disait que ce joueur peut aller très très loin. Et en fait, ils ont gagné beaucoup de tournois en double.
Tout à fait.
Et tu penses que ces joueurs-là, on parlait des Français, tu penses que ce serait bien qu'ils prennent, déjà des coachs, quelqu'un qui s'occupe du mental.
Alors il y en a de plus en plus maintenant. Hein, dans les box, on le voit de plus en plus. Maintenant, ça coûte cher d'avoir un staff élargi, mais ils se font de plus en plus accompagner. Moi, ce que je vois, c'est qu'en France, des fois, on a du mal à aller parler de ses peurs, de ses émotions, c'est tabou.
Mais et ça pourquoi c'est tabou ce... Pourquoi ça fait partie de ton personnage? On peut pleurer, on peut rire, ça fait partie de toi, quoi.
Mais les joueurs, des fois, ont du mal à se livrer. Et pourtant,
Éduqués. On a le droit de pleurer, d'être joyeux.
De montrer ses émotions, de les accepter. Et maintenant, le joueur qui est capable de faire le pas, pour moi, c'est celui qui va franchir le cap et qui va être le champion de demain.
Ouais, tu penses aussi que la balle. Hier soir, j'ai discuté avec un ami qui est aussi au club à Oswald. On en parlera un peu plus plus tard, il me disait que lui pense que les gens cognent beaucoup trop. Il y a trop de c'est des gladiateurs quoi, ouais, sur un court. Et est-ce que il disait il faudrait ralentir la balle, mais ça n'existera jamais.
Ouais,
quoi.
Alors je sais pas. Le tennis a beaucoup évolué aujourd'hui. Ouais. C'est un concours de puissance et dans le tennis masculin, c'est devenu tous les points se ressemblent un petit peu. C'est beaucoup en force. Il y a beaucoup moins de créativité. Maintenant, moi, je pense que la créativité, elle fait partie du joueur de tennis. Et celui qui est capable d'avoir une panoplie élargie, il va pouvoir...
On va parler un peu de ton club. Tu joues en ce moment, tu es coach mental et physique également à Oswald.
Oui, hein, c'est ça. Ça fait 6 ans maintenant que je suis arrivé. J'étais
tu es heureux là-bas, Oswald? C'est bien, c'est un beau club.
Alors, le club est super, super. On a des structures...
Comment il s'appelle le président? On peut en parler?
Oui, Elvix Spicer. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, donc ça a toujours été mon président. Moi, j'arrive de La Réunion, hein, donc il y a 13 ans, j'étais sur La Réunion.
Bah, ça change un peu là-bas, Oswald.
Et du coup, j'ai
hein.
fait une transition voilà, qui n'a pas été facile sur les 2 premières années.
J'imagine, ouais.
Et bah, l'idée, c'est que on continue à élargir un petit peu les adhérents, qu'on monte le niveau du club. On a deux équipes nationales.
Il y a 350 personnes, quand même,
on est peut-être à 300, on est à 300 adhérents.
Ah ouais, ok.
On a deux équipes nationales. Chez les garçons, et ça c'est vraiment une belle...
À la compète, tu veux dire, à la compétition.
Voilà, ouais. Et puis on a 22e série, je pense que, c'est pas que je pense, c'est qu'on est le club sur Strasbourg où il y a le plus de joueurs en 2e série. Chaque année, il y en a de plus en plus qui viennent, donc ça c'est vraiment super.
Et là en ce moment, il y a des compètes, je crois, non?
Là il y a le tournoi des seniors plus.
Ça veut dire quel âge, ça, senior plus?
De 35 à 80.
Il y a des gens qui jouent au tennis à 80?
Ouais, 80, et j'en ai vu, et c'est quand même incroyable.
C'est aussi un jeu de passion et de plaisir avant toute chose.
Hein. C'est ça.
C'est pas que gagner, c'est aussi faire construire un beau point, et d'être heureux sur un court. Quoi.
Voilà, être heureux, et puis vivre des émotions, et il n'y a rien de plus beau que de voir dans ces compétitions-là des gens qui viennent encore s'impliquer autant dans...
Quels sont tes projets là pour tu vas bientôt aller de nouveau au soleil il y a quelque temps?
Alors là déjà je pars demain faire de la compétition pendant 2 semaines. J'accompagne 7 joueurs qui ont un bon niveau national. Et puis après, on va préparer les championnats par équipe. On est en National 2, on a des beaux déplacements. On va à Perpignan, on va à Lyon, etc. Donc ça va être super. Et puis après, cet été, moi, je fais une grosse tournée avec des joueurs aussi du club en Normandie. Et puis,
Entraîner toujours pour...
Voilà, là, c'est vraiment un enchaînement sur 2 semaines de plusieurs tournois en Normandie.
Le tennis, tu joues un peu? Non, maintenant tu enseignes, tu joues plus pour...
Alors,
toi?
Je joue. Là, l'année dernière, j'étais champion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et champion du Grand Est, et je me suis qualifié pour les championnats de France en 55 ans plus. Donc, je continue, j'ai toujours un niveau correct, je suis encore en deuxième série.
T'es quoi, t'es 15?
Voilà, là, je suis 15.
Oh, c'est bon, c'est un beau...
Je joue moins, mais je m'entretiens, et puis l'idée, c'est quand je vais en compétition, c'est de prendre un autre plaisir, d'aller chercher un nouvel objectif, et puis voilà.
Et là, bientôt, avec les beaux jours, la terre battue, à nouveau à l'extérieur.
Ouais, alors
c'est,
ça, ouais.
C'est quelque chose que tu aimes, t'aimes jouer sur la terre battue?
Alors moi, c'est clair que, clairement, j'attends cette période avec impatience, pouvoir me connecter dans un milieu naturel. En plus, on a un étang à côté. C'est vraiment sympa. Hein. Pour moi, le tennis, c'est un sport d'extérieur avant tout.
Et alors, on peut parler juste un petit peu qu'un truc qui fâche, le paddle est quand même là. Hein. C'est quand même, il montre le bout du nez, hein. Le paddle prend de l'ampleur.
Ouais, alors le paddle, il est là. Alors,
et c'est plus facile de jouer au paddle?
Alors, c'est plus facile, mais d'un autre côté, il faut trouver 4 personnes. Je me suis mis pendant 6 mois, en journée, c'est compliqué. Maintenant, le paddle reste un sport de raquette qui est en train de
qui est plus facile à jouer aussi, je trouve.
Qui est plus facile, qui est plus accessible pour des joueurs qui débutent.
Ouais, c'est vrai.
Maintenant, ça a un coût quand même, je trouve, assez important.
C'est plus élevé que le tennis. Ouais.
Voilà. Ouais. Maintenant, pour moi, ça reste quand même le deuxième sport de raquette.
Raquette.
Le tennis restera toujours...
C'est vrai. Écoute, je suis été très content de t'accueillir devant cette forêt de micro chez nous à Radio Jutaïka. J'avais un plaisir de parler avec toi et je vois que t'as la patate, hein. Ça, c'est le mental qui parle. Merci Bertrand d'être venu jusqu'à chez
plaisir.
Nous. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera au 100e invité. Allez, générique de fin, les garçons.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. ne laisse pas trop couler de temps sous ton